Paul Hertley a mené une équipe de construction d'estrades. Et il a fait du bon travail. Si vous avez une estrade à construire, maintenant, on sait à qui s'adresser. Voilà. Quelques annonces. Dimanche prochain, après le culte, nous vous invitons à pique-niquer ensemble au parc Carole de Roumanie à partir de 1h. Sinon, nous avons les réunions habituelles. Le mardi, les réunions de prière en groupe d'hommes et de femmes. Les hommes le matin à 7h30, les femmes l'après-midi à 2h, en haut à boulevard de Magnan, 7 boulevard de Magnan. La Bible en 24 heures, c'est mardi à Mougins à 20h et mercredi à 19h30 ici même. Mercredi, c'est Esther, Néhémie, Esdras, Néhémie, Esther. Néhémie, et Esther. Esther. Et à Mougins, on est décalé, ce sera la Genèse 11 à 50. Ou 4 à 11, pardon. Jeudi soir, réunion de prière à 20h au boulevard de Magnan. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer?
Personne?
Ok. On se réjouit encore ce matin d'avoir la visite de Jean au Kili, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Jean est de passage à Nice.
So once again, we're extremely happy to have Jean au Kili with us, who's here in Nice for a few weeks.
On a Jerry qui est de retour aussi, qui est parti quelque temps aux États-Unis.
Jerry, who's back from the US.
Donc on vous invite encore une fois à rester après le culte pour prendre du café, parler, discuter. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se demande si on assiste à un début de conflit mondial. C'est quelque chose qui pourrait déboucher sur un conflit beaucoup plus vaste.
This conflict could become far more vast.
Et comme le priait Ronnie,
as I was praying,
il y a un risque d'amalgame entre les décisions militaires américaines et les évangéliques, puisque le président américain se réclame de cette foi, de notre foi. Mais là aussi, peut-être que c'est le Seigneur qui veut mettre un peu de la pression sur nous pour qu'on s'engage à parler de lui. Sans pour autant, bien sûr, justifier ou être d'accord avec la politique américaine, qui est une politique humaine. Et on pourrait penser que c'est un moment difficile pour l'Évangile. Je crois au contraire que c'est un moment très, très positif. Parce qu'il y a une anxiété peut-être dans votre cœur, dans mon cœur, et puis une anxiété dans les personnes qui nous entourent.
Because you might be feeling anxious, and also the people who surround us are feeling anxious.
Et je crois que c'est un moment où nous pouvons témoigner non pas seulement par les paroles, mais par notre amour en action. Et bien sûr, les gens ne se convertissent pas sous la menace des bombes. Mais par l'amour de
Christ.
Et une chose aussi est certaine, c'est d'avoir la paix que Dieu est souverain.
We need to know that the Lord is sovereign.
Que nous n'avons peut-être pas les réponses pour la souffrance des innocents. Mais réalisons que nous voyons qu'une petite partie des choses. Mercredi, nous avons parlé du livre de Job, qui justement est un exemple du combat spirituel qui se passe dans les cieux et qui a des conséquences sur la terre. Et Job est un exemple de foi parce que malgré son incompréhension, il a continué à faire confiance à Dieu. Et c'est ça la foi, c'est de faire confiance à Dieu même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Donc soyez encouragés et encouragés autour de vous. Voilà, nous allons prier avant l'annonce de la parole. Seigneur, nous te remercions pour ton amour,
Lord, we thank you for your love.
Pour ta volonté de nous aimer,
for your will to love us,
malgré notre rejet de toi.
Despite the fact that we reject you.
Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
Lord, we thank you for your word.
Ce trésor qui nous permet de connaître.
This treasure that allows us to know.
Et Seigneur, nous prions pour que cette année de la Bible soit vraiment une année où les gens se tournent vers la Bible.
And Lord, we pray that this year of the Bible will be a year that people really turn to the Bible.
Qu'il la laisse leur parler au cœur. Qu'ils voient quelle est la vérité. Seigneur, nous savons que nous avons besoin de ton aide pour la comprendre et pour l'interpréter. Merci pour ton Esprit Saint qui est là ce matin pour nous aider à comprendre et à apprendre. Seigneur, qu'elle transforme nos cœurs, nos vies. Qu'elle accomplisse son effet dans ce monde.
And that its effect will be accomplished in this world.
Seigneur, nous avons une pensée aussi pour nos frères chrétiens dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, et notamment dans ces pays tourmentés par la guerre, l'Irak et l'Afrique et d'autres pays encore.
And Lord, we want to thank you and think of our Christian brothers in this city, in this country, in those countries that are in war, and also in Africa and all other regions where there's war.
Amen. Romains 8.
We'll turn to Romans 8.
Nous arrivons à l'un des plus beaux et des plus important passage de la Bible.
We're now getting to one of the most beautiful, the most important passages of the Bible.
Si on comparait la Bible à une bague,
if the Bible is compared to a ring,
certains ont dit que l'épître de Paul aux Romains, c'est comme la pierre précieuse de cette bague.
Some have said that the book of Romans is like the precious stone of that ring.
Et le chapitre 8 de Romains, c'est comme l'éclat de cette pierre précieuse. Romains 8, c'est en quelque sorte la terre promise où Dieu veut que nous vivions. Nous avons, en faisant cette étude de la Bible en 24 heures, revu rapidement la condition des Juifs dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de leur esclavage en Égypte,
we saw their slavery in Egypt.
Leur délivrance par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse,
how God delivered them
et leur errance dans le désert avant de finalement traverser le Jourdain pour entrer dans la terre que Dieu leur avait promise depuis Abraham. Encore une fois, j'aime bien citer l'apôtre Paul qui dit que tout ça, ce sont des exemples pour nous. Que tout ça, ça leur est arrivé à titre d'exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et il y a un parallèle très intéressant à faire entre Romains et l'histoire des Juifs. Ça fait déjà un moment qu'on a commencé cette étude de Romains, mais vous vous souvenez que Romains 1, 2 et 3, ça parlait de notre esclavage au péché. Et ça, en termes de symbolique biblique, ou ce qu'on appelle la typologie, Romains 1, 2, 3, c'est la vie en Égypte. Qui symbolise l'esclavage au péché. Romains 3, 21 à la fin de Romains 5, c'est 5, 21, 3, 21 à 5, 21, ça nous parle de la justification par la foi, du salut. Et ça, c'est analogue à la délivrance d'Égypte, au passage de la mer Rouge ou de la mer des Joncs. Romains, on va sauter, on va passer à Romains 7. Vous vous souvenez, c'était Paul qui faisait part du combat de sa chair contre son esprit. Au point où il disait, je fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Il disait, malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ? Romains 7, c'est analogue à la vie dans c'est la vie dans la chair, c'est comme cette errance dans le désert. Romains 6, ça pourrait se comparer au passage du Jourdain. Parce qu'il faut considérer la vieille nature comme morte. Et il faut reconnaître que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à vivre Romains 7. Il faut que 11 jours de marche, on me dit, pour aller d'Égypte en terre promise. Mais par manque de foi, les Juifs ont erré 39 ans dans le désert. 40 ans. Et nous aussi, nous pouvons continuer à faire des tours de piste dans le désert. La terre promise, c'est la vie pour aujourd'hui, c'est pas le paradis. Pourquoi ? Parce que la terre promise, on a vu qu'elle s'accompagnait de combats. La vie que Dieu a pour nous, ça ne va pas être une vie de pique-nique. Ici-bas, ça va rester une vie de combat. Nous avons vu que nous avions trois grands ennemis, le diable, le monde et notre vieille nature. Et Luther disait qu'il avait un ennemi bien plus puissant que toutes les divisions du pape de l'époque. Cet ennemi, c'était sa vieille nature, la chair. La bonne nouvelle, c'est que si nous entrons en terre promise, nous allons combattre d'une position de force, de victoire. Encore une fois, les chapitres et les versets qui sont dans la Bible, ce ne sont pas des séparations inspirées par l'Esprit Saint. C'est quelque chose de très utile pour désigner un passage dans un texte. Mais bien souvent, ces divisions sont un peu maladroites. Et le début du chapitre 8, on aurait pu le remonter à la fin du chapitre 7, au verset 25.
And we see that the first verse in chapter 8 could actually very well have gone been added onto the end of chapter 7.
Paul, après avoir crié, après s'être écrié, qui va me délivrer?
And after Paul cried out, who will rescue me?
Il s'exclame, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia.
I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Et il va nous montrer que notre seul espoir de liberté et de victoire est dans l'Esprit Saint de Dieu. On avait remarqué que le mot clé du chapitre 6, c'était le mot péché qui était répété 17 fois. Les mots clés du chapitre 7, c'était deux mots. Il y avait le mot de loi, répété 18 fois, et le mot je, répété 37 fois. Ici, nous allons aborder dans ce nouveau chapitre un autre mot-clé, et ce mot-clé, c'est le mot « esprit » qui est répété 19 fois. Nous allons peut-être, en fonction du temps, aller jusqu'au verset 17, peut-être pas, mais... Nous allons voir que maintenant nous avons une nouvelle position, versets 1 à 4.
And we'll see that we now have a new position, verses 1 to 4.
Versets 5 à 13, nous allons voir que nous avons un nouveau patron.
And in verses 5 to 13, we're going to see that we have a new boss.
Vous voyez des fois des restaurants qui changent de direction.
And sometimes we see signs on restaurants that have changed of boss.
Et pour attirer la clientèle, ils mettent une banderole « Nouvelle direction ». Ownership, yeah. Pour être sûr de se démarquer de l'ancien patron, de l'ancien cuisinier qui savait pas ce qu'il faisait. Nous, on pourrait avoir un t-shirt en tant que chrétien, né de nouveau, disant « Nouvelle direction ». Puis nous verrons à partir du verset 14 qu'il est question d'une nouvelle relation que nous avons. Lisons donc les versets 1 à 4.
So let's read verses 1 to 4.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Nous avons une nouvelle adresse.
So we have a new address.
Nous pouvons habiter 10 avenue Aimé Martin.
Before we used to live of 10 Avenue Emily Martin.
We do now.
We do now.
Mais bien plus important, nous avons une autre adresse, nous voulons être en Christ.
Most importantly, our new address needs to be in Christ.
C'est un peu comme si, si on arrive dans cette terre promise.
It's like arriving in this promised land.
On voit en ce moment des, sur les images de la guerre des fois des panneaux qui indiquent les villes, les directions. Et là, on voit un grand signe qui dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça devrait nous remplir de joie. Si nous comprenons bien ce que ça veut dire, nous devrions être tellement heureux de voir ce panneau. Il est dit maintenant. En français, maintenant, ça veut dire tenant la main de quelque chose. Pour dire que ça suit tout de suite, c'est maintenant. Et de quoi il est question de tenir la main? C'est un renvoi, on tient la main au chapitre 6 et 7. Parce que nous sommes morts au péché, ça c'était la nouvelle du chapitre 6. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le péché est mort en nous. Mais nous avons la puissance de dire non au péché. Nous sommes morts à la loi. Parce que nous avons vu que la loi, c'était cet époux exigeant. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez emprunter la cassette sur Romains 7. Quelque chose qui n'est jamais satisfait. Nous sommes morts au péché à la loi. Il y a eu justification. Nous avons été déclarés justes par Dieu. Nous avons vu qu'il va plus loin, il nous sanctifie, il nous rend semblables à son Fils. Mais tout ça n'est possible que par Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. On a dit que la justification, c'était équivalent à une substitution. Jésus prend ma place. Je vous ai déjà partagé ce témoignage d'un ami. Qui avait été presque criminel dans sa vie. Mais un jour, il avait eu ce rêve qu'il était condamné à être fusillé. Et il était face, c'était un rêve très vivide, très très vif dans son esprit, très marquant, il était face au peloton d'exécution. Et l'officier commandant le peloton d'exécution baissait son épée pour dire « Allez-y, tirez ». Et juste à ce moment-là, il voyait un homme qui sautait devant lui et qui prenait le tir et qui tombait mort, lui permettant à lui d'être sauf. Sauvé. Et dans son rêve, la tête de l'homme se retournait vers lui et il voyait la tête de Jésus-Christ. Chaque fois qu'il a raconté cette histoire, il avait, comme il le disait, les yeux humides. Nous méritons le peloton d'exécution. Jésus est allé mourir pour nous. Et puis, la sanctification, c'est l'identification avec Christ. Nous sommes en Christ Jésus. À tel point que Paul va dire à la fin du chapitre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes chrétien né de nouveau, vous êtes en Christ? Si ce matin on vous a offert des bonbons au chocolat en entrant, et que vous les ayez mangés, je ne verrai pas un bonbon de chocolat, mais je verrai Grégory. Le bonbon est en lui. C'est une image triviale, mais c'est pour vous rappeler que nous sommes en Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ. C'est difficile à admettre intellectuellement, mais c'est une vérité mystique, une vérité spirituelle. Paul utilise l'expression « en Christ » plus de 80 fois, 85 fois, je crois, dans toutes ses lettres. Et ça, c'est une position de sécurité absolue. C'est une position de vie. Jésus nous a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sous-entendu, rien qui n'ait une quelconque valeur pour l'éternité. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Trop souvent, je me vois, nous nous voyons, séparés de Christ. Par la foi, il faut que nous déterminions de nous voir toujours en Christ. C'est ce que Paul essayait de communiquer lorsqu'il disait que nous sommes devenus une même plante avec lui. Same plant with him. Romains 6, 5.
In Romans 6, 5, he says, we've been united with him.
En fait, c'est une l'expression même et nous sommes devenus une nouvelle plante. Même plante avec lui.
The expression means that we've become a new plant within him.
Par la conformité à sa mort et nous allons être aussi conformés à sa résurrection.
Through conformity with his death and we're also going to be conformed with him through his resurrection.
La Bible nous apprend que nous avons été crucifiés avec
Christ.
Et que la vie que nous menons maintenant, nous la vivons par sa puissance, la puissance du Fils de Dieu qui nous aime et qui s'est livré pour nous. Ça, c'est Galates 2:20. Et ça, ça peut être paraître intellectuel, mais c'est fondamental. Un auteur chrétien, Miles Stanford, il a écrit un livre qui s'appelle Le principe de position. Et il fait une différence entre notre position devant Dieu et notre condition ici-bas. Notre position, c'est notre vrai état spirituel devant Dieu. Notre condition ici-bas, c'est notre expérience pratique. La façon dont pratiquement nous pensons vivre notre vie chrétienne. Il est important de réaliser que notre position, elle est parfaite. Nous sommes en Christ, nous sommes même assis dans les lieux célestes. En ce moment, vous ne le voyez pas, je ne le vois pas, je ne réalise pas, je ne comprends pas, mais l'Abîme m'annonce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Éphésiens 1. 2, pardon. Et ça, ça doit être la source de notre expérience ici-bas. La source de notre vie chrétienne au quotidien. De l'autre côté, notre expérience pratique, notre condition, selon son terme, ça ne reste pas immuable, ça varie. Chaque jour, en fonction des circonstances, nous sentons spirituels, pas spirituels. Nous sentons que nous avons la victoire sur le péché. Ou nous sentons tombés dans le péché. Et deux choses l'une, on peut soit se centrer sur notre position, soit se centrer sur notre condition, notre expérience pratique. Si nous nous concentrons sur notre condition, Sébastien, tu pourrais aller demander à qu'ils évitent, s'il te plaît, ou passer un coup de fil. Ça, c'est... Quand nous nous concentrons sur notre condition, sur la pratique, sur la vie pratique, comment ça, on vit notre foi, on ne vit pas par la foi. On vit par les sentiments, par les apparences. Et le résultat, c'est qu'on va être découragé. On va se centrer sur nous-mêmes. On n'est plus bon à rien pour le Seigneur. Notre responsabilité, c'est de nous centrer sur Jésus-Christ. De nous reposer en lui. Et cet auteur dit que si on fait ça, si on se centre sur la réalité spirituelle de notre position, alors il va pouvoir y avoir une manifestation, un progrès dans notre vie pratique. Paul disait dans 2 Corinthiens 3:18, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, pardon, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous avons tendance, en tant que croyants, à être conscients de notre condition, plutôt que de notre position. Et cet auteur dit que c'est la raison pour tant d'échecs et tant de stagnation. Et il ne faut surtout pas fonder notre foi sur notre vie pratique qui est non achevée, qui varie suivant les événements. Et peut-être que vous trouvez que c'est un peu théorique. Retenez simplement que si vous avez la foi dans votre position devant Dieu en Christ, alors cela va entraîner la croissance dans votre condition, dans votre vie pratique. Il faut que nous réalisions que nous sommes en Christ et que nous abandonnions nos sentiments et nos expériences. Quels que soient ces sentiments et cette expérience, la réalité, c'est que nous sommes en Christ. Et c'est pour ça qu'il est dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez condamné? Est-ce que vous tombez dans le péché, peut-être des péchés habituels dont vous avez du mal à vous défaire? Et aussitôt, c'est ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de condamnation. Le mot condamnation, ça veut dire juger de haut, prononcer coupable. C'est même, ça désigne même la punition qui suit la sentence. Et encore une fois, pourquoi est-ce que si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation? Est-ce que Dieu a décidé d'être sympa aujourd'hui et de dire, bon, mais les péchés, c'est pas grave? Non, parce que Christ a reçu la condamnation à notre place. Il est dit qu'il a condamné le péché dans la chair, verset 3.
God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering. He condemned sin in sinful man.
Il a condamné le péché dans l'homme pécheur ou dans la chair, c'est le mot grec.
He condemned sin in our flesh.
Et ça aussi, c'est vital de comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui nous attend au tournant.
And we need to know that God is not a God that is trying to play tricks on us or catch us out.
Est-ce que des fois vous pensez que Dieu est là pour vous attraper quand vous faites le mal? Et que c'est son rôle dans son existence éternelle, c'est d'attraper les bandits. Non, il est venu pour éliminer notre condamnation. On connaît tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais juste après, il y a le verset 17, Jean 3,17, qui dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
For God so loved the world. But we often forget about verse 17. It says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
Pour le croyant, le jour du jugement, en termes de condamnation ou pas condamnation, c'est derrière nous.
And for the believer, the day of judgment, when it speaks about condemnation or not, is not in front of, ahead of us, but behind us.
C'était il y a 2000 ans sur la croix. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent par moments condamné autant? Nous avons parlé de nos trois ennemis et là c'est le diable. Encore une fois aujourd'hui, on va peut-être nous accuser de fondamentalistes. Si on parle du diable comme une personne réelle, mais on ne peut pas se réclamer de la Bible. Et ne pas réaliser que le diable est une vraie personne existante.
Ce
n'est pas une allégorie. et nos frères libéraux qui disent qu'il faut relativiser, qu'il y a des messages à recevoir. Mais qui rejettent par exemple l'idée de la personnalité réelle du diable. Il pourrait aussi bien se réclamer des fables de La Fontaine. Si on commence à commenter la Bible pour en enlever son message, on n'a plus le droit de se réclamer d'elle. Et l'Apocalypse nous parle du diable qui est l'accusateur des frères. Le mot diable, diabolos en grec, ça veut dire celui qui calomnie.
And the word, devil, or diabolos in Greek, is he who lies, the liar.
Et le problème, c'est qu'il nous accuse devant Dieu.
And the problem is that he accuses us, before God.
Et il nous accuse aussi. Et la plupart du temps, ces accusations sont fondées. Mais nous savons qu'il est le père du mensonge. Et il essaye de nous faire croire, il nous dit, vous avez péché, ce qui est vrai dans certains cas. Et justement, lorsqu'il nous condamne, c'est vrai, nous avons péché. Et il dit, maintenant Dieu t'a rejeté. Et c'est faux. C'est ça. Il nous force à conclure avec erreur que Dieu ne veut plus entendre parler de nous. C'est, entre parenthèses, une raison pour laquelle le péché mène à la mort. C'est parce que ça donne de la validité aux accusations de Satan. Et il peut, de cette position de pécheur que nous reconnaissons, il peut nous mentir, nous séparer de Dieu et nous entraîner vers la mort. Donc encore une fois, l'idée que puisque Dieu pardonne, le péché c'est pas grave, c'est complètement faux. Souvenez de Paul qui s'exclamait, que dirons-nous donc, abonderions-nous, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et bien sûr, la réponse est non. C'est pas parce que Dieu nous aime, nous pardonne, qu'il a payé la condamnation que nous méritons, en envoyant son propre fils mourir pour nous, que nous pouvons pécher comme nous voulons. Encore une fois, si c'est notre position, alors nous pouvons nous demander si nous avons vraiment été touchés par la grâce de Dieu, si nous sommes vraiment sauvés. Vous vous souvenez, si la sanctification n'est que sanctification, alors la justification n'est probablement que justifiction. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de naissance. Et il est important de faire la différence entre deux mots. Il y a le mot de condamnation. Et puis le mot de conviction. La condamnation, elle nous dit, tu es misérable. Tu vas jamais changer. C'est sans espoir. Et là, nous sommes déprimés. Nous perdons tout espoir. Nous ne voulons même plus aller vers Dieu. La conviction, elle, vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, Et Pierre, ce que tu viens de faire, c'est mal. Tu t'es emporté avec quelqu'un. Appelle cette personne et demande pardon. Demande à Dieu de te pardonner. Et la conviction du Saint-Esprit, elle nous amène à demander pardon à Dieu. Elle nous demande de confesser et de demander pardon à Dieu. Et ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit. Dans Jean 16, 8, il est dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » C'est important d'être sensible à la conviction du Saint-Esprit et ne pas tomber dans le panneau de la condamnation qui vient du diable. Et pour faire la différence, voyez si ça vous entraîne à vous éloigner de Dieu ou aller au contraire vers lui. On a dit que nous étions morts à la loi. On a dit que la loi, elle est parfaite. Elle est en pleine santé, elle ne va pas mourir. Elle va durer pour toujours. Parce qu'elle représente la perfection divine. Mais là, il est question d'une loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 2. Dieu a établi des lois dans son univers, des principes qui le régissent, que ce soit dans le domaine physique ou le domaine spirituel. Et la seule façon pour une loi d'être annulée, c'est d'être remplacée par une loi supérieure. On peut encore une fois se rebeller contre Dieu et dire « je ne crois pas à ces lois ». Dire que la loi de la gravité ne s'applique pas à moi. Et vous pouvez peut-être essayer de nous le prouver en montant sur le toit. Et en marchant jusqu'au bout pour traverser la rue. La loi de la physique va montrer que vous aviez tort. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On peut nier ces lois, il n'empêche qu'elles sont réelles. La seule façon pour battre la loi de la gravité, c'est de faire appel à une loi supérieure. Et toutes les 5 minutes l'été, cette loi est en action à l'aéroport de Nice. C'est la loi de la portance aérodynamique. Left. Le fait que on voit ces monstres de métal, d'aluminium, de sièges, de rembourrage, d'électronique, qui pèsent des tonnes. Ces avions qui, on n'arriverait même pas à les soulever en s'y mettant à 100 personnes. Surtout quand les 100 personnes ont ramené leur petit sac de bagages, leur bagage, qu'ils ont du mal à faire rouler avec des roulettes.
Roll, even with, even those rolling suitcases.
La loi de la gravité s'applique de tout son poids.
The law of gravity applies with its whole, its full weight.
Mais nous avons découvert la loi de la portance aérodynamique.
With this law of aerodynamic lift.
Qui dit que s'il y a un courant d'air sous une aile inclinée, ça va créer une force vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'on a, on a pris du terrain sur la mer. Pour que l'avion puisse accélérer jusqu'à ce que la portance est plus fort que le poids de l'avion. C'est toujours un moment tendu de voir ce combat se dérouler. Sachant que si ça ne marche pas, nous sommes les premières victimes. Non, s'il y a toujours les white knuckles, les phalanges blanches assises à son siège.
Nancy always holds onto the seat desperately.
Et d'un seul coup, on se sent plus léger, on voit la terre qui s'éloigne, la piste qui prend de la distance. La loi de la gravité a été vaincue. Nous sommes spirituellement, nous sommes soumis à la loi du péché et à la loi de la mort. On a parlé des grands passages 16 de la Bible, 3:16 de la Bible. Et il y a beaucoup d'autres, si vous regardez l'adresse 3:16, il y a souvent des versets très intéressants dans la Bible. Et il y a un autre passage ici, c'est dans Romains, c'est le verset 23.
And in Romans 23, it's a very, sorry, verse 23 is a very important...
Romains 3:23. Tous, autant que nous avons péché et nous sommes bien loin de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 6:23, le salaire du péché, qui est notre maître, qui nous rend des esclaves, qu'est-ce qu'il nous donne comme salaire à la fin du service? La mort. Paul, dans Romains 6:23, dit qu'il voit dans ses membres une autre loi que la loi de Moïse. Il y a cette loi du péché et de la mort qui lutte contre son intelligence, il veut faire le bien.
Et
il est important de reconnaître cette loi. De ne pas prétendre qu'elle ne s'applique pas dans mon cas. On peut essayer de faire des progrès en lisant des petits livres de psychologie pratique. Comment trouver la paix en 10 leçons.
How to find peace in your own life and 10 lessons.
Comment influencer les gens.
How to influence people.
Comment devenir riche. En 2 leçons. Faire un livre sur comment devenir riche en 1 leçon. Ça, c'est le livre, la solution à la comment devenir riche, bien sûr. Non, on peut donner des noms plus tolérables. On peut dire qu'on a des faiblesses. On peut dire qu'on a des tendances. On a des penchants. Mais il faut appeler un chat et un péché, un péché. Et une fois qu'on réalise qu'il y a cette loi de la gravité qui nous entraîne vers le péché, vers la mort, alors, en
Christ,
la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous libère. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous prend dans ses ailes et qui arrive à nous élever, nous faire décoller de cette loi du péché. C'est lui qui donne la vie. 1 Corinthiens 15 disait, Paul disait que le premier homme, Adam, était devenu un être vivant, mais le dernier Adam, parlant de Jésus-Christ, est devenu un esprit qui donne vie, un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. 1 Corinthiens 15, 45.
He said, so it is written, the first man, Adam, became a living being, the last Adam, a life-giving spirit.
Comment être en Christ? Comment être en Christ porté par l'Esprit Saint?
So how can we be in Christ and be carried by the Holy Spirit?
Dans les transports, il y a deux principes. Il y a soit le principe de réservoir,
tank,
ou le principe de contact. Le principe de réservoir, c'est celui de nos véhicules automobiles. Il y a un réservoir de carburant qu'on remplit avec de l'essence, du diesel ou du GPL, en faisant bien attention de ne pas se tromper. Ou alors le principe de contact, ça c'est le principe du tramway, du trolley, qui est en contact avec une source d'énergie. Et nous pouvons vivre notre vie de chrétien sur le principe du réservoir. On peut venir une fois par semaine à l'église, dire « Bonjour pasteur, faites-moi le plein ». Ou alors nous pouvons appliquer le principe du contact. Réaliser que nous sommes en Christ à longueur de journée, à longueur de semaine. Et bien sûr, ce principe va permettre un progrès. On ne va pas avoir une vie en dents de scie. Nous n'avons pas de pouvoir en nous-mêmes. Est-ce que vous en êtes convaincu maintenant? Nous devons tirer cette puissance pour vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Nous devons tirer ça de notre source de vie. Jésus-Christ. C'est en lui, par son esprit, que nous pouvons avoir cette puissance pour vivre. Et ça ne veut pas dire que le lundi, le mardi, même après avoir passé un moment dans la prière, on ne va pas avoir des combats. Mais nous allons combattre d'une position de victoire. Vous vous souvenez que la loi, pour être respectée, accomplie, la seule chose qui marche, c'est l'amour. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui demandait à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle? C'est le passage dans Matthieu 22.
Matthew 22.
Plus exactement, je fais allusion au passage où c'était un docteur de la loi qui avait posé la question, quel est le grand commandement de la loi? Pardon.
So Pierre says he's actually referring to the lawyer that asked what was the position of the greatest commandment.
Et Jésus lui répondit, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
And Jesus replied, « Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. »
Dieu veut que nous l'aimions.
God wants us to love him.
Il ne veut pas que nous fassions de mal à nos semblables.
And he doesn't want us to hurt our neighbor.
L'amour ne fait pas de mal au prochain.
And love doesn't hurt those around us.
Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi.
So love is the accomplishment of the law.
Ça, c'est Romains 13, 10 que nous verrons plus tard. Il dit, celui qui aime les autres a accompli la loi. Et on sait que la loi, elle est parfaite. Et que notre amour, il n'est pas parfait. Il est souvent teinté d'égoïsme. Mais l'amour dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Verset 5 de Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romans
5:5.
Last part, the love of God.
Says God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit.
Cet amour d'ailleurs, venu d'ailleurs,
and this love that comes from elsewhere,
c'est le Saint-Esprit qui peut le mettre dans nos cœurs. Il y a peut-être des gens que vous avez du mal à aimer. Vous avez peut-être des personnes au travail qui sont un vrai cauchemar. Un petit sondage. Il y en a qui ont l'honnêteté. Merci pour ceux qui l'admettent. Par votre amour humain, c'est impossible de les aimer. C'est arrivé dans ma vie, mais je peux vous garantir que si vous demandez à Dieu de vous donner cet amour par le Saint-Esprit, il peut vous le donner si vous le voulez sincèrement. Et ça peut être une expérience passionnante. Parce que maintenant, quand vous allez aller au travail, vous allez vous attendre à l'action de Dieu. Vous allez être très sensible à au moindre petit encouragement de cette personne qui était d'habitude si pénible. Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Pas seulement des sentiments pleins d'émotions. Non, le courage, le désir de faire des actes concrets d'amour.
Lord, not just feelings, but also the courage to do and to feel feelings filled with
warm fuzzies, to avoid the warm fuzzies, but just to act, d'agir. Et je vous garantis qu'il va le faire. Est-ce que vous êtes prêts à Vous n'avez pas besoin de me répondre maintenant, mais devant le Seigneur, demandez-lui de vous donner cet amour. Le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la gentillesse, le contrôle de soi, toutes ces choses. Si nous réalisons que nous sommes en Christ, nous pouvons à tout moment faire appel à sa force. Et lorsque nous recevons cet amour, nous recevons cette force, cette puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Nous pouvons donner au lieu de prendre. On peut diviser souvent les populations ou les groupes en deux catégories. Une façon brutale, c'est de dire il y en a qui peuvent donner et d'autres qui ne peuvent que recevoir. Et ça, c'est tout à fait normal que suivant les circonstances, il y a des moments où on ne peut plus rien donner. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander et recevoir. Mais en tant que chrétiens, si nous sommes en Christ, nous pouvons commencer à donner aux autres. Ça n'a pas besoin d'être des choses matérielles, ça peut être de l'attention, de la sympathie, ça peut être un sourire. Et ça vient du fait que vous êtes libéré si vous vous concentrez sur lui, sur Christ. Si vous réalisez vraiment votre position en lui. Le monde, le diable, notre vieille nature vont être là pour nous condamner. Christ, en qui nous sommes, est là pour nous encourager. Pour nous dire, tiens, voilà des ressources pour bénir ceux qui t'entourent. Je vous garantis que c'est tellement libérateur de réaliser que nous, même sans rien, nous pouvons donner l'amour de Christ autour de nous. Et surtout, encore une fois, en ce moment, avec cette inquiétude sur la guerre et sur les conséquences tragiques qui pourraient en découler, on parle de conflits de civilisation, de l'islam contre le christianisme. Merci que ça n'a pas besoin d'être comme ça. Et si nous sommes en Christ, nous pouvons donner quelque chose à ceux qui nous entourent et être des instruments de paix. Amen. Prions. Seigneur, tu vois combien ces choses peuvent être abstraites. Seigneur, aide-nous à ce qu'elles soient vraiment concrètes dans notre vie. Aide-nous à accepter par la foi ta parole qui nous dit qu'avec toi nous sommes en toi, que tu nous donnes tes ressources, que nous pouvons être en contact avec toi sans arrêt, que tu peux ainsi nous utiliser, Seigneur. Nous ne sommes plus condamnés. Merci de nous l'affirmer, Seigneur. Nous ne sommes plus sans arrêt à essayer de nous justifier ou à nous morfondre de notre péché. Tu veux nous encourager. Tu veux nous affirmer et réaffirmer ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour cet amour. Pendant que nous sommes dans une attitude de recueillement, peut-être certains ont envie de faire ce pas. De placer leur confiance en Christ. Si c'est votre cas, vous pouvez prier après moi cette prière. Vous pouvez la prier en silence dans votre cœur. Seigneur Dieu, je sais que je suis pécheur, que je ne fais pas ta volonté et que j'ai besoin de ton pardon. Je regrette mes péchés. Je te demande vraiment de me pardonner. Jésus, je crois que tu es vraiment mort sur la croix pour mes péchés. Que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur et t'inviter à venir dans ma vie pour me retrouver en toi. Je réalise que rien ne peut mériter ce salut. C'est tout de ta part, Seigneur. Je mets ma confiance complète en toi pour ma vie éternelle. Merci de me transformer, de faire de moi la personne que tu souhaites. Merci d'avoir entendu et répondu à ma prière. Merci pour le don de la vie éternelle. Et pendant que nous sommes encore recueillis, si quelqu'un a prié cette prière, je vous demanderai juste de me le signaler en levant la main. Merci Seigneur pour ces deux qui ont répondu à l'appel dans leur cœur. Béni sois-tu. Merci de les fortifier. Nous savons que l'ennemi est sans répit. Il veut attaquer par le doute, les circonstances adverses. Fortifie ces deux personnes, Seigneur. Aide-les à grandir dans la foi. Merci, Seigneur, pour l'amour qui nous unit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, fasse de vous des instruments de paix et d'encouragement, d'amour. Amen. Et les personnes qui ont prié, je vous demanderai de passer me voir après. On va avoir quelques paroles ensemble. Sachez que la Bible explique qu'il y a la fête dans les cieux lorsque des personnes viennent à lui de cette façon. Amen.